Assez nombreux au vu des circonstances. Donc on vous remercie toutes de votre présence parce que ça nous fait nous aussi chaud au cœur de voir qu'il y a la poignée de fidèles qui vient à la messe de l'UTB pour écouter. Donc on fera comme l'an dernier une présentation à trois voix. Donc je vous présente mes deux. Mais vous, les fidèles la connaissent déjà, les deux vice-présidentes. Attendez, on n'applaudit pas tout de suite. Françoise Novarina Rassovlev, debout, merci, voilà. Et Michel Beaumont, donc deuxième vice-présidente, voilà. Et donc, vous avez la chance extraordinaire de voir mon visage, puisque c'est pas facile de se reconnaître dans le contexte actuel. Bon. Donc, on va démarrer. Donc, l'objectif, c'est toujours de faire un balayage rapide de notre programme. Alors, je fais, comme d'habitude, un sondage dans la salle. Quelles sont les personnes qui n'étaient pas encore adhérentes au moment où je parle à l'UTB et qui sont venues? On peut faire un petit comptage rapide, oui. Voilà. Bon, une bonne dizaine de personnes. 17 personnes. Donc, merci. Alors, je vais faire un sondage express. Par quel canal, vous n'allez pas répondre les 17 à la fois, par quel canal avez-vous connu l'UTB? Soit par connaissance, soit par les médias habituels et tout et tout. Alors, est-ce qu'il y a quelques personnes qui... Par exemple, qui l'a connu par les amis et les connaissances? Levez le bras. Qui l'a connu par Internet? Voilà. Qui l'a connu par les médias, le journal, les choses comme ça? Comme d'habitude. Ah, si, le journal. Bravo. Parce que d'habitude, personne ne lève le doigt. Bien, donc effectivement, cette manifestation est là, essentiellement pour but de renseigner les potentiels nouveaux arrivants. Et j'espère bien que vous allez conclure. D'ailleurs, il y a quelques personnes qui ont donné une petite enveloppe pour concrétiser leur adhésion. Je rappelle que pour ces personnes, il faut au moins qu'elles passent une fois au bureau pour qu'on les prenne en photo pour fabriquer la carte d'adhésion. Alors, ça me permet de faire une transition rapide sur la thématique des cartes. Depuis l'année dernière, nous avons un système de cartes avec un code barre, comme au supermarché, qui nous permet, si vous voulez, de vérifier l'existence de l'adhésion et de faire des statistiques de présence pour nous aider un petit peu à voir quels sont le type de conférences qui intéressent les uns ou les autres. Alors, c'était fait essentiellement pour ça. Mais avec les événements que nous vivons aujourd'hui, on a découvert une fonctionnalité supplémentaire qu'on n'avait pas du tout anticipée, c'est que ça nous permet de tracer individuellement quelles sont les personnes qui assistent à telle ou telle conférence. Et si par malheur, vous voyez ce que je veux dire, on avait un incident d'une personne, on a la possibilité de faire un traçage des gens, ce qui est rarissime dans les assemblées ou des conférences ou des spectacles vivants ou des spectacles publics. Donc on a la chance d'avoir cet outil. On se remercie d'avance de l'avoir mis en œuvre. Voilà. Alors je rappelle également pour les fidèles qu'on n'a pas besoin de repasser au bureau pour faire des manipulations particulières sur cette carte. Il suffit simplement d'avoir payé sa cotisation, c'est enregistré dans la base de données et on revient avec la même carte que l'an dernier et ça sera validé instantanément. Donc, je profite également de l'occasion de signaler la présence de Madame Mosnier. Merci de vous lever, si vous voulez, pour que les gens vous connaissent. Hein. C'est la nouvelle adjointe à la culture de la ville de Chalon, hein. Donc qui a assisté, donc on s'est déjà vu plusieurs fois, mais qui vient d'assister la semaine dernière au conseil d'administration du CA, puisque la ville est membre de droit de notre association. Voilà. Et donc, c'est notre interlocuteur. Disons de référence pour la ville de Chalon. Voilà, merci. Alors, pour les conférences, je réponds à la question que vous ne m'avez pas encore posée, qui est comment ça va se passer? J'allais dire comme un bon normand, ça va se passer comme ça se passera, c'est-à-dire on verra bien. Mais globalement, dans toutes les salles, on nous octroie une jauge, évidemment tout le monde masqué, gel à l'entrée et masque de secours au cas où il en manquerait un. Et surtout, la jauge de 1 sur 2. Hein. Donc c'est pour ça que vous avez vu, on s'est disposé avec les chaises un petit peu écartées. C'est la règle pour le moment. Alors, ça, dans les salles municipales. Par contre, vous savez que de temps en temps, nous allons, ici ou là, j'évoque en particulier l'IUT. Pour le moment, l'IUT nous a pas encore donné ses règles, si vous voulez. Et les règles de fonctionnement, on pense les avoir à la fin de la semaine, en fonction de leurs propres contraintes diverses et variées. Alors l'IUT, ça reste en principe une solution complémentaire aux salles municipales qui sont nos salles de référence, c'est-à-dire ici et le Clos Bourguignon, éventuellement un petit peu ce qu'on appelle la salle 3, c'est-à-dire la petite salle de Marcel Samba. Voilà. Donc, on navigue à vue, comme toutes les organisations. Bien évidemment, faites l'effort de faire du recrutement auprès de vos amis, etc., plus que jamais, puisque vous savez que nous ne dépendons que des cotisations, et toutes les associations sont confrontées à la même problématique, peut-être d'une façon moins aiguë que nous, mais enfin, nous comme les autres. Je rappelle quand même que Muriel, on a la chance d'avoir une salariée très efficace et tout, et c'est nous qui la payons avec nos cotisations. Donc, si on a moins de cotisations, ça nous pose quand même un petit problème. Je vous rassure tout de suite, on la paiera toujours. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc, on va faire l'exposé à trois voix, selon un scénario qu'on a préparé à l'avance, mais je ne garantis pas des petits cafouillages. Donc, je fais l'introduction, et ensuite, soit Michel Beaumont, soit Françoise, enchaîneront sur l'exposé de chacune des conférences. Voilà, donc vous reconnaissez la plaquette. Donc si vous en voulez pour d'autres personnes, vous savez où s'adresser. Donc et on en distribuera à la mairie ou à l'office du tourisme, etc. Et ensuite, donc, comme d'habitude, on a de grands thèmes transversaux. Donc je vous les laisse lire. Hein. On a pris les ducs de Bourgogne tout simplement parce qu'il va y avoir au musée de Nons, une exposition qui était prévue cette année et qui est décalée d'un an, entre juillet et octobre, sur les grands commanditaires d'œuvres artistiques, qui sont les hauts fonctionnaires, on va dire, des ducs de Bourgogne, les Nicolas Rollin et consorts, si vous voulez. Et donc ça se marie bien avec cette thématique-là. Le temps des cathédrales. C'est l'événement sur l'incendie qui nous a donné cette idée, si vous voulez. C'est pas inutile de revisiter un petit peu cette chose-là sous différents aspects. On y reviendra dans le détail. La guerre 39-42, on continue l'histoire contemporaine comme c'était les années précédentes et on raconte la phase ascendante de l'Axe. Le romantisme allemand dans toutes ses composantes philosophiques et littéraires. Les révoltes sociales aussi bien en France que dans le monde, je n'ai pas besoin de vous faire de dessin, donc on a des gens qui ont accepté de nous faire des exposés sociologiques et historiques sur cette thématique. Un thème sur l'évolution, on y viendra, et la transition écologique. Nous aussi, on va parler d'écologie, mais ça fait des années qu'on parle d'écologie, mais là on a osé mettre le titre qui est galvaudé, on en parle tellement que ça finit par être un petit peu dévalué. Et j'ai mis un petit panneau signalétique, parce qu'on s'est trouvé, bien sûr, dans la difficulté de dire, au moment où le confinement est arrivé, qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'on avait prévu deux nouvelles conférences pour l'ensemble du programme. Et donc, on a fait un choix à la Hussarde, c'était la veille du confinement. Et on va dire la moitié des conférences qui allaient être annulées, on les a gardées, hein, si vous voulez. Et l'autre moitié des conférences, c'est les nouvelles propositions que nous avaient faites nos conférenciers. Donc on a fait 50-50, si vous voulez. Et donc, pour que, alors ça n'apparaît pas sur la plaquette, si vous voulez. Par contre, sur cette présentation, on a bien identifié les conférences que l'on a conservées du programme du 15 mars, si vous voulez, jusqu'à la fin de la saison passée. Voilà. Et donc, on y va, je laisse la parole. Donc,
C'est à moi, ça marche ? Oui.
Voilà.
Alors, tout d'abord, les conférences d'histoire de l'art, qui restent le socle de notre programmation. On a une trentaine de conférences.
De l'aigu, l'aigu.
Alors, en particulier, en architecture...
Pour le masque. Oui. Je crache sur personne. Juste sur mon micro. Oui.
En architecture... On appuie sur le bouton.
Oui.
Voilà. Merci. Alors, en architecture, toujours notre conférencier architecte Cyril Brûlé, il nous parlera cette année de la Villa Savoie, due à Le Corbusier, villa qui est dans les Yvelines, je pense que tout le monde connaît plus ou moins, qui est inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Et il nous parlera également d'une réalisation régionale, le Carmel de la Paix de Mazille, dû à José Luis Serre, qui est un architecte catalan et qui a également travaillé avec Le Corbusier, qui n'est pas très loin de Cluny. Ensuite, les cathédrales. Alors, nous avons deux conférences par Mathieu Pinette. Tout le monde connaît Mathieu Pinette, peut-être pas les nouveaux, mais c'est une de nos vedettes de conférenciers avec enthousiasme, savoir-faire et beaucoup d'érudition. Donc, il nous parlera de la cathédrale d'Amiens dans deux conférences. Il est particulièrement apte à nous parler de cette cathédrale puisqu'il a été conservateur des musées à Amiens. Il nous parlera également de Viollet-le-Duc, architecte restaurateur plus ou moins controversé. Et il nous parlera également, non pas d'architecture là, mais de Camille Claudel, donc sculpteur ou sculptrice, je ne sais pas comment on dit, peintre également, et de ses relations qu'on connaît par ses relations avec Rodin, relations pas très sympathiques parfois, qui ont bien bouleversé sa vie. Ensuite, le cinéma. Donc, toujours, on reste dans le Moyen-Âge, avec la littérature médiévale au cinéma. Véronique Assadas va passer en revue les adaptations d'œuvres médiévales. Au cinéma, c'est extrêmement éclectique, puisque ça va de Lancelot du Lac de Bresson au Sacré Graal des Monty Python. En musique, Stéphane Varnet nous fait deux conférences, comme tous les ans. Une heure, une œuvre, c'est la troisième symphonie de Brahms, c'est en lien avec le concert du Grand Symphonique. Et puis la conférence illustrée, c'est également du Brahms, c'est le trio en la mineur, également en lien avec le conservatoire et le salon musical. Toujours en musique, nous aurons Jean-Luc Fevra, qui est régisseur au conservatoire, qui nous parlera du théorbe, un instrument assez particulier. En particulier, il analysera quatre manuscrits et ça sera illustré en musique, bien entendu. Pour la suite de la musique, Hubert Humeau, dont on connaît aussi l'enthousiasme, va nous parler de l'histoire du gospel, bien sûr il étudiera ça, et apparemment il doit nous faire pratiquer l'assistance. Mais oui, il parlera également dans une deuxième conférence de la langue française dans la musique vocale, donc en particulier la partie théorique, l'analyse de la phonétique, des rythmes, des intonations, et là encore il fera participer le public. Toujours en musique, Bernard Valeur nous parlera de couleurs et musique. Bernard Valeur, qui est professeur honoraire au Conservatoire national des arts et métiers, est particulièrement intéressé par la couleur, parce qu'il a écrit un livre, La couleur dans tous ses états. Donc la relation couleur et musique. En plus. Toujours en musique, nous avons Joël Farinck, qui nous parlera de Germaine Taillefer et du groupe des Six. Germaine Taillefer, qui est une grande compositrice, titulaire de nombreux prix. Et donc, elle nous parlera également de l'enfer et du paradis, c'est-à-dire une évocation de ces deux mondes dans la musique. À vous, Françoise.
Oui, alors... Je vais retirer le masque parce que je crois que sinon on ne comprend pas. Alors, en histoire de l'art, nous reverrons... ça va ? Nous reverrons... Bon, je l'enlève. Nous reverrons Damien Capelazzi, bien sûr, avec deux conférences tout à fait passionnantes qui tournent autour de l'art flamand, puisque nous avons voulu valoriser les ducs de Bourgogne et les œuvres rattachées à cette cour. Donc, les manteaux de chair, les arts flamands des origines à la postérité, et les routes techniques de l'or des peintres sont les pionniers de la cour de Bourgogne, avec des peintres tels Van Eyck, Van der Weyden, Robert Campion, et puis Campin, et puis Van der Goes. Donc, tout à fait dans le droit fil de ce que nous avons souhaité faire. Alors, en art contemporain, Roger Courreau revient, ce fut le dernier à avoir pu faire une conférence avant le confinement, il a clos la série. Et donc, il nous parlera de deux artistes japonais très contemporains. Takashi, on n'entend pas du tout là, ça, il y a des variations bizarres. Il y a des variations bizarres. Ça va, c'est bon ? Moi, j'ai l'impression de variations bizarres. Alors, deux artistes contemporains, Takashi Murakami et Yayoi Kusama, qui sont des artistes japonais. Il y a quelque chose qui va pas. Merci. Donc, deux artistes japonais. Takashi Murakami, il est connu à cause de ses visages ultra, ultra rigolards, avec des rictus de rire. Et Yayoi Kusama, c'est la femme des petits pois. Des petits pois rouges, des petits pois de toutes couleurs. Et aussi Sophie Kahl. Alors, il faut savoir qu'il y a une exposition qui va commencer à Paris, à la Fondation Louis Vuitton, sur Sophie Kahl, qui est une artiste contemporaine qui s'est pris pour sujet et qui est une artiste qui se transforme, elle est tout à fait étonnante. Voilà. Donc, je vous recommande ces deux conférences. Alors, Frédéric Cousin, il reprend cette conférence qu'il aurait dû faire l'année dernière sur Albrecht Dürer. Albrecht Dürer est un artiste de la fin du Moyen-Âge, qui est quelqu'un qui a influencé, on peut dire, toute la peinture, toutes les formes d'art, pas que la peinture, la sculpture aussi, de la Renaissance et ensuite. Tout le monde se confronte à Albrecht Dürer. J'ai même vu une exposition à la Fondation MAG cet été où l'artiste, dont je perds le nom, bien entendu, tout à fait contemporain, enfin il est mort il y a peu de temps, s'est confronté à Albrecht Dürer. Donc, très important conférence. Et puis, tout à fait à l'opposé, Frédéric Cousin nous fera une conférence sur l'abstraction lyrique,
c'est-à-dire, c'est de l'art moderne, hein, c'est moins contemporain, bien sûr, hein, mais avec des artistes dont vous connaissez bien sûr les noms, Nicolas de Staël, par exemple, Soulages, Riopel, Olivier Debré. Donc, sont des artistes qui sont français pour l'abstraction lyrique, mais qui répondent à ce qui s'est fait aux États-Unis, bien entendu, en Amérique. Alors, Claudie Roger elle va faire les deux conférences qu'elle n'a pas pu faire l'année dernière. Alors, ça tombe bien parce que l'exposition Maneret à Paris, qui devait aussi avoir lieu l'année dernière, a été repoussée. Donc, si vous allez à Paris, vous pourrez voir ces expositions en relation avec la conférence de Claudie Roger sur Maneret, qui fut le photographe surréaliste hein, des années Montparnasse. Et Gustave Courbet, bien sûr, c'est la fin de toute sa série hein, sur les artistes de la fin du 19e. Et elle va entamer un cycle sur les peintres animaliers avec Jean-Baptiste Oudry et Rosa Bonheur. Bon, bien sûr, nous avons engagé François Vion Delphin hein, à faire des conférences sur Léonard de Vinci, et il n'a pas hésité à répondre à notre demande, bon, puisque c'est un anniversaire, hein, Léonard de Vinci. Donc, il va nous parler de son itinéraire depuis Claude Lucé hein, jusqu'à toutes ses inventions et découvertes. Et puis, j'ai le bonheur de faire une conférence sur Aimé Mag, qui est un autre marchand d'art. Ça fait suite au cycle que j'avais entamé déjà il y a quelques années sur les marchands d'art. Alors, je vois qu'il y aura une conférence sur Joseph-Louis Sertes, qui est cet architecte catalan. Mais moi, je vous en parlerai aussi, mais avec un exemple concret, puisqu'il a, pour les Mag, fait cette fondation à Saint-Paul-de-Vence. Voilà. Et puis, Maurice Cotin, ici présent, va poursuivre son panorama de Paris en photo avec l'histoire de Paris de 1830, c'est-à-dire la monarchie de Juillet, hein, jusqu'à 1914, jusqu'à la guerre. Donc c'est passionnant parce qu'on va revoir Paris à travers des quartiers, à travers des photos de ces endroits qui ont vu l'histoire. Voilà, donc je vais passer le micro. Non, je ne le passe pas. C'est d'abord Yves Fournier qui doit faire...
Oui, donc les conférences d'histoire restent un bloc important dans notre programmation. Vous voyez, 37 conférences et un libellé, une thématique extrêmement variée, puisque nous essayons d'avoir un spectre le plus large possible pour intéresser tous les publics. Alors, donc, Michel Beaumont va enchaîner la liste de ses conférences, et je lui laisse la parole.
Oui, merci. Donc, l'histoire médiévale. Bruno Benoît nous parlera de la face cachée des bourgeois de Calais. Tout le monde connaît l'œuvre de Rodin, qui a contribué à faire de cet épisode un mythe. Donc il proposera une relecture de la légende. Il nous parlera également, il fera une enquête historique sur la construction des cathédrales, les particularités des constructions des cathédrales et les artistes qui ont œuvré, tant architectes que décorateurs. Toujours dans les cathédrales, là c'est Philippe Clemenceau, qu'on reçoit tous les ans. Il nous parlera des cathédrales ex-cathédra, donc c'est pas redondant avec la conférence précédente. Il nous expliquera qu'au XIe, XIIe siècle, mis à part le chœur, les cathédrales étaient ouvertes à tout un chacun, et donc il y avait des activités profanes, et c'est donc cet aspect qu'il va développer dans sa conférence. Histoire médiévale toujours, Monique Roux, notre professeur d'histoire préféré, nous parlera de la Bourgogne avec Nicolas Rollin, donc une grande figure politique, chancelier de Bourgogne. Il était chancelier de Philippe le Bon pendant 10 ans. Elle nous parlera également de Marie de Bourgogne, donc une riche héritière. C'est la fille de Charles le Téméraire et elle a hérité de son domaine très jeune, à 20 ans, et elle a été l'objet de beaucoup de convoitises. Toujours les ducs de Bourgogne, avec Alena Vacek, qui va retracer justement l'histoire des ducs de Bourgogne, depuis la naissance jusqu'à l'apogée du duché, comment un petit duché est devenu les grands états bourguignons jusqu'en Flandre. Toujours la Bourgogne, avec les commandes des hauts fonctionnaires des ducs de Bourgogne par Madame Brigitte Maurice Chabard, qui est conservateur en chef et directrice des musées. Elle est aussi historienne de l'art et particulièrement spécialisée dans l'art médiéval. À vous, chef.
C'est l'écho de la conférence, de l'exposition dont on a parlé tout à fait au début. Hein, voilà. Donc venez l'écouter, ça vous donnera envie de visiter l'exposition. Voilà. Bon. Alors, ensuite, là je suis obligé de parler, c'est un... Bon, petit larcet. Donc je vais vous parler d'Alexander von Humboldt. Donc c'est un grand savant allemand prussien du 19e siècle qu'on peut mettre en parallèle avec son frère aîné William. J'en parle d'autant plus, c'est un gars qui a fait des explorations de toute l'Amérique du Sud et de l'Amérique du Nord pendant 6 ou 7 ans. D'une façon absolument extraordinaire, et c'était un homme universel. Mais il a également, on a découvert ça récemment, il a des relations avec Denon. Qui n'avait pas de relations avec Denon? Et ils étaient grands copains quand il était à Paris, parce que tous les Humboldt ont vécu l'un et l'autre à plusieurs reprises à Paris. Ils étaient parfaitement francophones. Donc je vous raconterai la vie de cet individu. Non mais c'est moi qui fais du larcène. Voilà. Alors, ensuite, histoire contemporaine. Donc, on va reparler de Bismarck. Ça, c'est un petit clin d'œil à un de nos conférenciers qui est disparu, décédé il y a 3 ou 4 ans, qui était plutôt un germaniste, et qui avait commencé un cycle sur Bismarck. Bismarck, un peu oublié d'ailleurs dans la mémoire collective française, parce qu'évidemment il a une image forcément négative puisqu'il est associé à la guerre de 1870, mais je rappelle que Bismarck a inventé la sécurité sociale, contrairement à ce qu'on ne sait pas, voilà. Et donc ça permettra de parler un petit peu de l'activité du chancelier de Prusse en termes de politique intérieure et d'organisation sociale. Et un bon complément, c'est de parler de l'Empire austro-hongrois, dont tout le monde parle sans savoir qu'est-ce que c'est. Ça n'a pas duré très longtemps, c'est le 19e siècle, c'est une invention du Congrès de Vienne. Et on verra comment tout ça, ça a démarré et comment tout ça s'est mal fini. Voilà. On va parler également de la montée des dynasties industrielles au XIXe siècle. C'est la continuité d'un cycle que nous avait fait M. Courriol sur l'enrichissement sous l'Ancien Régime. Donc là, c'est l'enrichissement au XIXe siècle et la montée des dynasties industrielles. Et tout le monde reconnaît le personnage. Alors, qui est ce personnage? On est dans la région, hein. C'est Eugène Ier Schneider, hein, bien sûr. Alors, sur la guerre de 39-45, comme j'ai dit tout à l'heure, donc on fera la phase 39-42, qui est là, aussi bien en Europe dans une première conférence. Donc l'opération Barbarossa et l'invasion de l'Union soviétique, et la partie pacifique avec Pearl Harbor et Midway. Donc les succès des Japonais jusqu'à Midway. Voilà. Pierre Alliot, donc, est un de nos conférenciers, surtout d'histoire contemporaine. Alors, en histoire contemporaine, eh bien, voilà notre ami Kersaudy qui va nous faire une fois de plus la description de son chéri Winston Churchill, qui est le... Alors, il va regarder l'aspect militaire de Winston Churchill. Alors, il a fait des choses bien, il a fait des bêtises comme Hitler, comme tous les stratèges, bien sûr. Donc, il nous racontera ça avec sa faconde habituelle. Et il veut nous faire découvrir un homme qui est méconnu, c'est Kersten, qui était le médecin kinésithérapeute de Himmler, et qui, grâce à ses relations très tactiles avec Himmler, a réussi à obtenir, par des magouilles qu'il nous expliquera, le sauvetage de plusieurs milliers de juifs des camps, alors que c'était le médecin d'Himmler. Il faut quand même le faire. Donc il fait partie des justes, lui aussi. Alors, ensuite, la décolonisation. Ça, c'est un sujet qu'on a très peu traité depuis que je suis là. Ça fait 15 ans, c'est un sujet qui est encore chaud et politiquement difficile, même encore aujourd'hui. Évidemment, j'ai mis Albert Camus, qui est une icône de cette thématique, et donc il va essayer de faire un bilan un peu global, comme il nous l'a fait dans ses conférences précédentes, sur le rôle des intellectuels dans toute cette thématique de la décolonisation, et en particulier pendant la guerre d'Algérie. Voilà une conférence qu'on a loupée, et donc ça va être une expérience aussi, c'est de faire une conférence en anglais. En anglais. Donc, c'est la dame qui fait ça, évidemment, elle est anglaise, et elle fait les cours d'anglais à l'UTB de Beaune. Elle nous a proposé ça l'an dernier, et bien sûr, on a accepté, puisqu'à Beaune, ça avait très bien marché. Donc, si vous ne comprenez pas l'anglais, on vous expliquera un petit peu. Hein. Mais je pense que l'anglais est bien adapté au sujet. Donc, Martin Luther King, l'histoire de Martin Luther King. Voilà, donc, au moins pour ceux qui... Alors, bien sûr, on va inviter le groupe de conversation anglaise, on va inviter les gens qui font les cours d'anglais, et on va inviter les enfants des écoles et les professeurs d'anglais pour remplir un petit peu la salle. Mais j'espère que vous ferez l'effort, même si vous n'êtes pas très doué en anglais, d'essayer de venir écouter cette conférence, parce que ça va motiver un petit peu notre conférencière. Alors, en complément de ça, alors, des conférences en français, donc... de Claude Yonnet, qui va nous parler de l'histoire de l'esclavagisme, de l'esclavage et de l'esclavagisme, et Dieu sait si le sujet est toujours présent dans l'actualité. Et enfin...
C'est moi qui... Alors, dernière conférence d'histoire contemporaine par Monique Roux, qui aime les sujets insolites. Hein. Donc, elle va nous parler du bagne. C'est tout à fait en relation finalement avec les conférences qu'on vient de citer. Hein. Donc, des galères royales aux bagnes coloniaux, hein, donc c'est pourquoi c'est tout à fait en relation. Et puis, finalement, comment ces bagnes ont été abolies. Et elle nous parlera aussi de l'architecture de ces bagnes, c'est tout à fait étonnant. Ils se visitent hein, maintenant. Alors, ensuite, conférence d'histoire avec Jean-Michel Spenglard, qui jusqu'à présent avait fait plutôt des conférences sur des romans policiers. Hein, sur les... Et là, c'est Alexandra David-Neal, qui est une voyageuse extraordinaire, qui a vécu jusqu'à 101 ans. Elle est morte en 1969, c'est-à-dire il y a peu de temps. Et c'est la première femme à avoir pu arriver à la Sao Tibet, hein, donc à avoir pu pénétrer dans des lieux interdits aux étrangers et bien entendu aux femmes. Donc c'est quelqu'un de tout à fait remarquable. Si vous avez l'occasion de trouver de ses livres chez les bouquinistes, n'hésitez pas, ils sont passionnants à lire. Et l'histoire du coton, C'est Jean-Paul Jursac qui nous en parlera. Donc, c'est tout à fait d'actualité aussi le coton dans un moment de protection hein, de l'environnement. C'est vrai que le coton est une culture extrêmement gourmande en eau. Et donc, j'ai vu encore à la télévision tout à fait récemment un reportage, enfin très court, hein, sur le coton Camargue et ça finit par assécher. Hein, et donc c'est tout à fait concurrencé par d'autres cultures, en particulier le lin et le chanvre, qui sont moins gourmands en eau. Donc c'est très intéressant de voir ce que va nous dire Monsieur Jursac. Alors, non pas Christelle Morin-Dufoy, mais je perds le nom. Marie-Annick Fargeix, nous ferons une conférence sur la charité dans les hôpitaux chalonnais avant la Révolution. C'est un aspect social, hein, si vous voulez, de notre ville, comment la population chalonnaise prenait en charge ses pauvres, ses errants, ses malades. Voilà, donc, et ce jusqu'à la Révolution. C'est tout à fait en relation, évidemment, avec la promotion de la restauration de la salle des étains à l'hôpital de Chalon, puisque cette salle des étains, les sœurs de Sainte-Marthe y distribuaient la soupe populaire. Donc c'était une forme hein, de prise en charge des pauvres, et c'était une forme de charité. Mais on ne vous parlera pas que de ça, bien entendu. Alors, les canaux de Bourgogne, par Dominique Jursac. Donc, les canaux ont été un mode de transport, enfin, a permis un mode de transport tout à fait important depuis de très longue date. Hein. Nous avons beaucoup entendu parler du canal du Centre, de sa construction, etc., grâce à Jean-Claude Mallard et à son acolyte. Mais il y a bien sûr d'autres canaux en Bourgogne qui ont été créés bien avant d'ailleurs. Donc c'est intéressant, et d'autant plus qu'on peut s'y promener, on peut louer des bateaux, et c'est un mode de tourisme tout à fait agréable. Je le sais parce que j'en ai bénéficié.
Bien. Alors, Ahmed Djebbar, qui est également une de nos vedettes qu'on a fidélisée depuis une dizaine d'années. Je rappelle qu'Ahmed Djebbar était ministre de l'Éducation nationale en Algérie de 1992 à 1994, dans la période très compliquée de la guerre civile. C'est pénible. Et donc, il va nous parler, une fois de plus, des schismes, puisque la religion chrétienne n'est pas seule à avoir des schismes internes. Donc, le chiisme, le sunnisme et diverses autres sectes. Et donc, quelle est l'histoire de ces schismes et... Non, il faut que je me mette en arrière, là, parce que... Voilà. Oui, c'est avec les haut-parleurs. Bon. Donc, baissez les aigus là, un petit peu. Voilà, ça va mieux là ?
Oui, c'est mieux.
Donc, on aura un exposé complet là-dessus, comme d'habitude, et je rappelle quand même, il est évidemment arabophone. Et donc, il a accès à des sources, si vous voulez, dans la langue d'origine. Alors, monsieur, la première conférence de la saison, ce sera donc monsieur Curnier Laroche, donc, qui est un conférencier d'histoire de l'art et accessoirement le curé de Sennecey-le-Grand, hein, mais qui est diplômé comme un sauveteur. Il a un CV de ministre un petit peu, et qui est un grand spécialiste de l'architecture et de l'histoire de l'art. Et donc, il nous parlera de l'image du pharaon dans l'iconographie égyptienne. Et à nouveau, vous allez m'écouter, mais là, vous voyez, c'est là, j'en fais que deux. Hein. Et là, c'est une conférence que j'avais préparée pour l'an dernier. C'est essayer de faire un résumé synthétique de deux livres importants qui sont sortis il y a quelques années. Donc, Sapiens de Yuval Noah Hariri, qui est un Israélien, et Emmanuel Todd qui a fait un bouquin plus récent en 2018 sur Sapiens, où en sommes-nous, quoi, qui fait un peu la même analyse mais sur une période plus courte de l'histoire de l'homme. Donc l'objectif, c'est, parce que c'est très riche, ces deux bouquins sont très riches, et ça mérite de vous donner l'envie de les lire, et si vous ne les avez pas lus, j'en aurai quelques-uns à la vente pour pouvoir que vous puissiez en profiter. Voilà. Alors, l'Empire ottoman, on va faire également, donc Françoise Guérin, Geneviève Guérin va nous parler de l'Empire ottoman, qui a quasiment 1000 ans, et qui est passé par des phases diverses et variées depuis l'expansion de la religion musulmane, et qui s'est effondré juste après la Première Guerre mondiale. Là aussi, on va parler de noms. Quand on parle de quoi que ce soit, de noms vient toujours, quand on est dans la période, de noms vient toujours à l'idée. Pardon, excusez-moi. Annick Le Guerrier, la grande spécialiste de l'histoire des parfums, et bien évidemment, comme on faisait les Égyptiens avec le pharaon, et bien on va faire les parfums sacrés d'Égypte. Avec, vous voyez, le petit cône de parfum sur la perruque des femmes dans les icônes, dans les fresques qui sont dans les tombes de la vallée des rois. Alors, les rois qui savaient lire. Donc, tout ça, c'est un cycle que nous a fait Michel Bonnet.
C'est pas vous.
Ah, c'est pas moi. Pardon. Donc, j'arrête.
Il veut tout faire. Alors, en littérature, on a 15 conférences, dont donc les rois qui savaient lire, qui est une conférence qui aurait dû être donnée l'année dernière, puisque vous voyez le petit sigle. Et en particulier, là, on se posera la question de savoir ce que lisaient les rois qui savaient lire. Et Michel Bonnet va nous parler de la bande dessinée. Il a beaucoup insisté pour nous parler de cette art ou pas art, ça dépend des personnes. Donc, une première conférence sur la bande dessinée, une expérience à vivre, donc à définir ce qu'est la bande dessinée, et une deuxième conférence sur les sources d'inspiration de la bande dessinée. Effectivement, elle est très vaste, puisque ça va des grands mythes aux reportages, et bien sûr les œuvres de fiction également. En littérature toujours, Marie-Laurentine Caetano va nous parler de Machiavel, ce qu'est réellement d'ailleurs le machiavélisme, c'est-à-dire la pensée, la philosophie de cet auteur. Elle nous parlera également d'un autre humanisme, Montaigne, grand penseur aussi du XVIe siècle, et une troisième conférence complètement différente là, sur les figures de style de la littérature dans la vie quotidienne, les figures de style que l'on rencontre partout, aussi bien dans la pub, les médias, que dans les discours politiques, tout le monde se rappelle, moi, président, etc. Littérature toujours. Stéphane Le Couédic terminera son cycle sur la science-fiction avec Les rêves du futur, la science-fiction française qu'on affecte de ne pas connaître. Et pourtant, elle est riche si on pense à Jules Verne et à Pierre Boulle, La planète des singes. Et il entame donc cette année ce cycle sur la littérature allemande. 4 conférences, donc une conférence sur Berlin, une ville symbolique qui permet la construction de l'entité allemande, une conférence sur un groupe symbolique de mouvement des jeunesses allemandes. Un thème cher à la littérature allemande, la forêt, et une figure spéciale, Louis II de Bavière, qu'on appelait le roi fou. Toujours en littérature, donc Françoise est ici présente et Catherine Weissmann vont nous convier en enfer avec Dante, une conférence qu'elles auraient dû faire l'année dernière, et après elles vont nous métamorphoser avec Ovid. Toujours en littérature, alors deux conférences qui étaient prévues l'année dernière, donc Pierre et Marie Curie, l'approche intime du couple, c'est-à-dire Pierre et Marie Curie à travers leurs écrits, leurs lettres de l'un à l'autre. Et Barbe Bleue, donc le conte populaire que l'on connaît dans la version de Charles Perrault, qui est, riche en idées, en pensées sur l'infidélité, les violences conjugales, etc., etc. Le théâtre, avec deux conférences encore que Gaël Abou n'a pas pu faire l'année dernière, donc le théâtre polonais, je vous avoue, je ne connais pas bien, et Antoine Vitesse, donc ça on connaît mieux, le metteur en scène qui avait beaucoup d'autres cordes à son arc et qui a été administrateur de la Comédie française. À vous, chef.
Donc nous avons dans nos amis et connaissances le général André Génaud, qui nous a proposé un exposé sur le métier de soldat d'aujourd'hui. On en parle d'une façon tangentielle dans les actualités avec l'opération Barkhane et des choses comme ça, si vous voulez, mais vraiment, le citoyen de base aujourd'hui est très ignorant de ce qu'est le métier de soldat, puisque je rappelle que depuis le début des années 2000, l'armée française est une armée de métier, n'est plus une armée de conscription, parce que c'est une armée qui est technologique et professionnelle. Donc il va nous expliquer toute cette évolution qui est tout à fait significative et qui n'est pas connue du public, si vous voulez. Et là, évidemment, on a le meilleur spécialiste pour nous parler de cela. C'est moi qui parle encore, là.
Ah oui, mais...
Question de société, un monde disparu, la société juive d'Europe centrale et orientale. C'est celle qui était la cible de tous les nazis. Et donc il y avait tout un écosystème, on va dire, ou toute une communauté avec un mode de vie tout à fait spécifique, au-delà de toute polémique sur la religion, qui est, on a un peu oublié, si tant est qu'on le connaissait déjà, quels étaient les modes de vie de ces familles nombreuses, comme vous le voyez. J'ai trouvé sans aucune difficulté des illustrations qui permettent de montrer ce type de mode de vie communautaire, si vous voulez. Notre ami Serge Luneau, donc professeur honoraire de chimie, va parler d'un sujet très polémique. Et le titre, c'est « Vous avez dit naturel » et le sous-titre, c'est « Hostilité sociale vis-à-vis de la chimie de synthèse ». Aujourd'hui, c'est très à la mode de dire « Quand c'est naturel, c'est bon. Et quand c'est synthétique, c'est mauvais. » Alors, c'est complètement faux. Tout ce qui est naturel, il y a du bon et du mauvais. Tout ce qui est synthétique, c'est du bon et du mauvais, comme partout. C'est de la chimie. Donc, je rappelle, il est professeur de chimie. Donc, il va nous en parler en conséquence. Mais ce n'est pas inutile d'aborder le problème, on va dire, de la perception sociale de cette chose-là. De la même façon, l'alimentation... C'est un outil de santé ou un outil de plaisir de la table. Les deux, mon capitaine, bien sûr, et on essaiera de discuter de ces deux aspects de l'alimentation. par M. Patrick Nordet, qui est un ancien d'AgroSup. Il est en retraite maintenant. Et là, évidemment, je ne pouvais pas échapper au gilet jaune. Évidemment, j'ai pris la photo, ce n'est pas difficile, et donc j'ai trouvé un conférencier qui est professeur dans un des lycées de Hilaire de Chardonnay, hein, qui a accepté de traiter ce sujet-là. Et de le traiter d'une façon sociologique, si vous voulez. Hein. Alors, c'est toujours moi ?
Oui.
Alors, Annick Spey, qui avait commencé à mettre le doigt dans l'engrenage, mais presque pas, sur le problème de la censure dans la photographie. Alors, les exemples célèbres, ce sont les photos retouchées du régime soviétique et du régime chinois, où on voit des photos où les personnages disparaissent les uns après les autres en fonction de leur... destruction politique ou physique. Voilà. Et la censure, donc ça c'est la première conférence, la deuxième, la censure des formes artistiques est-elle devenue morale aujourd'hui ? Puisque vous voyez qu'il y a un mouvement de fond qui se met à critiquer sous des tas de critères les propositions artistiques des uns ou des autres. C'est un phénomène récent, ça, c'est un phénomène qui date d'une dizaine d'années. La psychologie...
Ah, là, c'est moi.
Pardon ?
Là, c'est moi.
Ah, c'est elle. Voilà. Donc, je ne dis plus rien.
Alors, en psychologie, donc, Patrick Bonin va nous parler de la mémoire humaine. En fait, on a plusieurs types de mémoire avec des mécanismes très complexes. Et donc, il a... sous-titrer sa conférence « Une mémoire toujours en mode de survie ». En philosophie, nous avons trois conférences données par Pierre Guénantia. Une, celle du milieu, sur Kant, qu'il devait faire l'année dernière, la critique de la raison pratique. Il a eu le temps l'année dernière de nous faire la critique de la raison pure, mais pas la raison pratique, donc il le fera cette année. Il nous parlera aussi de la philosophie de Marx, qui sera à l'origine du courant de pensée politique, économique, qu'est le marxisme. Michel Le Pilouer nous fera, lui, une conférence sur l'idéalisme allemand, un courant du XIXe siècle, dont font partie Kant, Hegel, etc.
Bon, Kant c'est celui du bas, Hegel c'est celui du haut. Hein, pour, si vous ne l'avez pas reconnu, ils n'ont pas de masque. Hein.
Michel Le Pilouer avec Arlette Mougin animeront tous les deux une conférence débat sur Freud. Ensuite, Michel Simonin fait une conférence qu'elle aurait dû faire l'année dernière, oui. Peut-on tout dire ? Donc on s'interrogera sur les limites de la liberté d'expression.
Alors, je ne sais pas si vous voyez la petite blague, là, si vous arrivez à lire. Hein. Donc, c'est très bien. Pour ceux du fond, hein, faut-il dire la vérité aux imbéciles ? Alors, le gars qui est dans le fauteuil dit « Je veux savoir » et le médecin lui dit « Vous êtes très con. »
C'est le chat, ça.
C'est le chat.
De Gueluc. Ensuite, nous aurons des conférences d'économie et de droit. En particulier, donc, l'histoire constitutionnelle de la 4e et de la 5e République, rien à dire. Cette conférence sera donnée par Damienne Bonamy, qui est directrice de l'Université ouverte de Franche-Comté, qui est l'homologue de l'UTB, là-bas. En économie et droit, toujours, la compétitivité de l'industrie française. Comme on peut le voir sur le graphique, depuis des années, on assiste à un recul de l'industrie, peut-être plus chez nous que chez nos voisins. Et donc, Jean-Louis Donnet va dresser un état des lieux et bien sûr essayer d'imaginer, d'évoquer l'avenir, et particulièrement préoccupant avec la crise sanitaire. Jean-Louis Fillon nous a fait déjà une conférence sur le droit de la mer, donc là c'est le deuxième volet sur ce droit très complexe des mers. Ensuite, Hélène Tourard nous parlera des conventions internationales d'extradition, un cadre bilatéral et multilatéral à travers deux exemples très actuels. Julian Assange, le
patron de... Et vous reconnaissez celui qui est sur la photo, bien sûr.
Et Carlos Ghosn, oui. Assange, c'est celui de Wikileaks. Ah, Françoise, ça vous...
Voilà, alors nous aurons quatre conférences de géographie et géopolitique, deux qui sont en fait des reports de l'année dernière, qu'on n'a pas pu exécuter, et deux nouvelles. Alors, Bruno Benoît, qui vient très souvent, hein, que nous connaissons, qui nous fait des conférences de géopolitique, nous parlera de l'impôt et des Français face à l'impôt. C'est un sujet délicat, brûlant. Et il nous parlera aussi des explosions sociales mondiales, il n'y a pas qu'en France, qu'il y a des gilets jaunes et qu'il y a des explosions sociales, il y en a partout, hélas. Et Pierre Michaud, qui est un géographe, nous parlera du Yémen et de la réunification à la dislocation, c'est-à-dire que le Yémen en ce moment est un point chaud, hein, du Golfe et du Moyen-Orient, et c'est un lieu, hélas, où s'affrontent par procuration d'autres puissances limitrophes. Et Lionel Véron, et espérons, hein, que Lionel Véron pourra venir, nous parlera de la rivalité stratégique de la Chine et des États-Unis, qui est particulièrement d'actualité. Ça l'était l'année dernière, mais ça s'est renforcé. Alors, en sciences et techniques, il y a trois conférences. C'est Michel Bonin, qui sont effectivement encore des conférences que nous avons dû reporter. Conférence d'astronomie, c'est l'observation de l'univers. Alors, l'observation de l'univers, le domaine visible grâce au télescope, le domaine radio, c'est-à-dire l'écoute, hein, à travers les radiotélescopes, et le domaine des ultraviolets, infrarouges, etc., et rayons, grâce aux satellites qui nous permettent de nous rapprocher, hein, de ces rayons et de les examiner avec plus de fidélité. C'est donc tout à fait passionnant, cette découverte de l'univers.
Michel, Renoir. Alors, en biologie et géologie, on a un certain nombre de conférences. Déjà, le terroir viticole, qui nous concerne particulièrement. Stéphane Bourque essaiera de définir ce qu'est le terroir viticole. Une notion assez complexe, je crois. Ensuite, une...
Vous l'avez pris, ça, vous l'avez très bien.
Hein ?
Non, oh, pardon.
Au revoir. Au revoir. Merci.
Alors, ensuite, un nouveau conférencier que nous avons rencontré avec Yves Fournier, qui nous a paru très intéressant, enthousiaste, communicatif, etc., qui va nous parler du fonctionnement, c'est un peu ardu, du fonctionnement moléculaire de l'olfaction et comment ce sens nous permet d'interagir avec notre environnement. Je vous le conseille parce que vraiment il a l'air d'être extrêmement passionné par ce qu'il fait, et il nous a communiqué sa passion lorsqu'on l'a vu.
Et on a découvert que l'Université de Dijon est en pointe sur ce type de recherche au niveau mondial, sur l'odorat. C'est peut-être parce que c'est la ville de la gastronomie, j'en sais rien. Mais enfin, je ne sais pas si c'est un lien de cause à effet. Voilà.
Ensuite, un autre nouveau conférencier qui est Guillaume Lecointre, qui va nous parler de la théorie synthétique de l'évolution. Alors Guillaume Lecointre, il est, comme vous le voyez, professeur au Muséum d'Histoire Naturelle. C'est un des spécialistes français de ce qu'on appelle la systématique, c'est-à-dire l'art de classer les êtres vivants. Il a fait d'ailleurs un livre avec son collègue Hervé Le Guyader. Et je ne vous cacherai pas que quand j'étais prof, c'était ma Bible pour traiter de ces sujets de l'évolution du vivant. Donc lui, il a particulièrement développé des méthodes pour mettre en place la phylogénie, ce qu'on appelle la phylogénie, c'est-à-dire les relations de parenté entre les êtres vivants. Donc je pense, et en plus je crois qu'il a beaucoup d'humour ce monsieur, donc une conférence intéressante s'il en est. Ensuite, Mathias Schulz, qu'on connaît, nous propose la question suivante. Sommes-nous entrés dans un nouvel âge, l'Anthropocène? Alors l'Anthropocène, vous savez que les aires géologiques sont divisées en périodes, et en particulier l'ère tertiaire et quaternaire, qui n'existe plus maintenant, mais on s'en fiche. C'était des oligocènes, miocènes, éocènes, vous avez dû apprendre ça à un moment donné. Et donc, ils sont caractérisés par des grands changements dans l'environnement terrestre. Et certains scientifiques pensent que, justement, les activités humaines ont fortement bouleversé l'environnement terrestre, si fortement qu'on est peut-être entré dans une nouvelle période géologique. Donc Mathias va nous expliquer tout ça. Ensuite, Thierry Malvesi nous propose une conférence sur quoi de neuf en paléontologie humaine. Donc je pense qu'il va faire une mise au point sur les dernières découvertes de nos ancêtres. Et il y en a effectivement des découvertes très récentes de nos ancêtres les plus proches, hein, des Homo, des Australopithèques. Et je pense qu'il parlera également d'autres fossiles dont on a découvert des restes importants. Ensuite, dans l'écologie, nous avons une conférence d'Elisabeth Bardès sur le climat et l'atmosphère, même combat. Donc, quels sont les mécanismes qui font que l'atmosphère protège la Terre, mais les mécanismes aussi qui permettent de comprendre le dérèglement climatique actuel. Toujours en écologie, l'urgence écologique et l'économie. Donc, comme on l'a déjà dit, hein, il y a énormément de dégradation de l'environnement actuellement due aux activités humaines, et on essayera de savoir si un nouveau système économique pourrait infléchir, voire modifier cette situation qui est dramatique.
Médecine.
Oh,
Françoise.
Oui, c'est Françoise.
Oui, alors nous avons deux conférences de biologie médecine, une par Patrick Berch, qui nous a été, que nous avons connu grâce à Debré, hein, qui était venu faire une...
Patrice Debré, oui.
Pardon ?
Patrice Debré, oui.
Oui, Patrice Debré. Vous avez raison, parce que je ne trouvais plus son prénom. Patrice Debré. Oui. Et donc, cette conférence, c'est sur la résistance aux antibiotiques, qui est aussi c'est un problème tout à fait d'actualité. Ces antibiotiques qui ont été la grande découverte de la deuxième moitié du XXe siècle, hein, qui nous ont permis quand même de lutter contre toutes sortes de maladies et de
infectieuses.
Oui, de maladies infectieuses, alors que bon, maintenant, à force d'afforce, eh bien, on a développé une certaine résistance. Mais bon, je crois qu'il ne faut pas être trop pessimiste, et j'espère que Patrick Berch nous expliquera comment la science progresse à cet égard. Enfin, une autre conférence par nos deux dames, là, nos deux adorables dames, parce qu'elles sont très, très sympathiques, gentilles, tout à fait compétentes, et sur les cancers de la peau, autre cancer qui malheureusement... Alors, se développe, ou en tout cas qu'on découvre plus facilement maintenant qu'autrefois, on y fait plus attention sans doute, mais qui peut, enfin, ces cancers de la peau peuvent être très, très dangereux si on y prend garde. Voilà, et Virginie Silver, qui est ingénieure au service du CEA à Val-Duc, hein, qui est donc...
Au nord de Dijon.
Un point que nous connaissons. Voilà. Nous fera une conférence sur les plasmas. Alors, les plasmas, c'est une phase de la matière. Hein, c'est une matière qui se charge en particules, hein, ions et électrons. Et donc, ces plasmas, on les rencontre dans l'ionosphère, c'est-à-dire autour de la Terre, mais aussi dans notre télévision éventuellement. Quoi. Donc, vous voyez, le prisme est très large. Donc, Marie Husson-Robert, qui est une conférencière que nous connaissons depuis longtemps, nous fera une conférence sur l'histoire des médicaments depuis la préhistoire. Hein. Donc, c'est une conférence sur l'histoire des sciences, mais qui rejoint la biologie-médecine quand même. Hein. Et puis, Vincent Mercier, qui est chirurgien à Chalon, hein, à la clinique Sainte-Marie, mais je crois qu'il est en retraite maintenant.
Oui, il est en retraite.
Il est en retraite, c'est pourquoi il peut nous faire une conférence sur l'histoire de la chirurgie, qui a été sa passion de nombreuses années. Et c'est fort intéressant de pouvoir avoir cette histoire de la chirurgie.
Bien, alors j'ai dit que je ne faisais que deux conférences, en fait j'en fais trois, hein. Je découvre ça en faisant l'exposé. Donc je vais vous parler d'un homme que personne ne connaît, mais vous allez le connaître puisque je vais vous en parler, c'est un monsieur qui s'appelle Konstantin Tiolkovsky. Retenez bien ce nom-là. Alors qui est ce bonhomme-là? C'est celui qui a fait la théorie des fusées, c'est un russe comme son nom l'indique. Mais ce qui est extraordinaire dans son aventure, c'est qu'il a trouvé... Il a fait toutes ses recherches théoriques, hein, puisque finalement il était isolé. C'était un instituteur dans le plus profond de la taïga russe et qui était isolé de tout le monde. Et il a tout fait tout seul. Et il a tout trouvé 30 ans après les pionniers des fusées dans les années 20 et les années 30. Et tous ses successeurs... Vous demandez à n'importe qui aujourd'hui qui est dans le domaine des fusées, quel est le père des fusées? C'est lui. Donc je vous raconterai sa vie, qui est un roman extraordinaire. Et on a connu ce bonhomme-là par Stéphane Lequidic, parce qu'il est connu dans les milieux de la science-fiction. Et il a fait un certain nombre de nouvelles de science-fiction, à caractère un petit peu rigolo et pédagogique. Et je vous annonce en avant-première que nous allons publier un recueil de ces nouvelles de science-fiction. Et donc, c'est pour ça que je vais vous parler de la vie de ce bonhomme. Voilà. Ensuite, EDF. Alors, EDF fait de la recherche, comme tout le monde. Et il va nous parler qu'est-ce qu'il fait comme recherche pour... permettre d'avoir une meilleure flexibilité dans la transition énergétique. Un des problèmes de la transition énergétique, c'est que nous avons le solaire et l'éolien qui sont des énergies qu'on appelle intermittentes, c'est-à-dire ça ne marche que quand il y a du soleil et quand il y a du vent. S'il n'y a ni soleil ni vent, il n'y a pas d'électricité. Donc il faut qu'il y ait d'autres sources, c'est le nucléaire pour l'essentiel qui le fait en France. Mais quand on augmente la proportion d'énergie intermittente, si vous voulez, il n'y a pas de bouton pour régler le vent, ni pour régler le soleil. Alors que sur le nucléaire, il y a un bouton. C'est pénible, ça. Donc, il va nous expliquer quelles sont les solutions pour permettre la stabilité du réseau, puisque s'il y a trop d'énergie intermittente, eh bien, on a un risque de blackout total, parce que ça va faire sauter l'ensemble du réseau. Pour le moment, ce n'est pas le cas, parce qu'il n'y en a pas suffisamment, et on est interconnecté avec les pays voisins, ce qui fait, qui permet de lisser un petit peu les perturbations. La voiture électrique, alors on est gavé de voitures électriques dans la communication et publique et privée. On va essayer, donc Serge Luneau va nous faire un bilan complet en disant les avantages mais également les inconvénients de la voiture électrique. Est-ce que c'est la bonne solution ou est-ce qu'il faut en faire 100% et, ou la moitié ou comment ça se présente, etc. C'est un sujet qui est extrêmement complexe et c'est intéressant d'avoir un balayage complet de ce sujet-là par quelqu'un qui n'est pas c'est un chimiste. Donc il n'est pas mouillé dans les lobbies pro ou anti voiture électrique, il n'est pas de l'industrie automobile, donc il a un regard un petit peu distant vis-à-vis de ces problématiques. On réinvite à nouveau le professeur Nicole, qui est spécialiste d'intelligence artificielle, qui nous a fait déjà deux conférences intéressantes, parce que ce n'est pas facile à exposer en conférence, mais ça, il nous avait convaincus, c'est-à-dire il nous avait quand même fait toucher du doigt un petit peu qu'est-ce qu'il y avait derrière ce mot un petit peu magique, qui est un peu faux d'ailleurs, intelligence artificielle, ça ne veut pas dire grand-chose. Bon, donc il nous avait déjà cité un certain nombre d'exemples, donc il continuera dans cet exposé. Et voilà donc le programme des conférences. Donc, comme d'habitude, donc pour les nouveaux ou futurs nouveaux adhérents, l'outil de référence c'est le site internet UTB sur lequel il y a les horaires, les salles, le titre, le nom du conférencier, le CV du conférencier et le résumé de la conférence. Donc, total. Une fois que la conférence est terminée, les enregistrements sonores et le support visuel sont chargés sur le site. Et pour ceux qui ont payé une cotisation complémentaire de 20 €, ils y ont accès en direct, soit parce qu'ils n'ont pas pu assister à la conférence, soit parce qu'ils veulent réécouter la chose, parce que l'intelligence artificielle, ça les a gonflés, et ils voudraient réviser un petit peu la conférence pour être sûr d'avoir tout bien compris. Et traditionnellement, on fait des animations avec la bibliothèque municipale. Alors, depuis 3 ou 4 ans, on était perturbé par des tas de changements, de modifications. Et la bibliothèque nous a dit, on est désolé parce qu'ils étaient aussi un peu impliqués dans le fait qu'on ait dû annuler d'autres manifestations. Donc, on propose de refaire cette animation qu'on avait fait il y a 4 ou 5 ans. C'est l'explication des globes de la salle de lecture de la bibliothèque. Et ça a deux intérêts. D'abord, dans l'absolu, c'est intéressant donc de savoir ça. Et surtout, on les voit enfin, parce que je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans cette salle de lecture, ils sont dans l'ombre. C'est-à-dire, quand vous êtes dans la salle de lecture, vous voyez qu'il y a des globes. D'abord, il y a une corde qui, vous voyez, qui vous empêche de vous approcher parce qu'il ne faut pas mettre le doigt sur les maps mondes. Mais en plus, à distance, à 3 ou 4 mètres, on ne voit rien. Donc, quand on fait l'animation, là, les lampes sont allumées et on voit un petit peu quels sont ces... Et on peut tourner autour et bien voir tout ça. Donc, on mettra ça, ce sera au printemps, comme d'habitude, et on remettra ça en musique avec Nathalie Vallon. Donc, je vous remercie de votre écoute. Vous avez le droit de poser des questions, c'est fait pour ça. Bonne conférence et on espère faire tout ce qu'il faut pour que les salles soient disponibles, que les conditions d'écoute soient les meilleures possibles et puis qu'on revive ensemble une belle saison de conférences de l'UTB. Voilà. Voilà, je vous remercie. Vous pouvez poser des questions maintenant si vous voulez. Hein.
Bonne question.
Alors, pour ceux qui veulent s'inscrire, hein, donc je rappelle pour les nouveaux, il faut absolument passer au moins une fois au bureau pour qu'on vous fabrique votre petite carte d'adhérent et qu'on vous prenne en photo pour mettre votre magnifique photo sur la carte d'adhérent. Merci.
Une question.
Les conférences 1er octobre.
1er octobre.